Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Têtes Chercheuses, donc ce format qui est consacré aux articles, aux parutions, disons, de recherche, généralement universitaire, mais l'idée c'est vraiment de mettre à disposition, de rendre accessible un article écrit, un article qui est parfois un peu long ou un peu aride, ce qui n'est pas le cas de l'article d'aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment d'en faire partager à la fois le processus de recherche et les conclusions. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Ryan Nourdali, sergent de l'artillerie britannique. Alors les habitués du Twitter militaire vous connaissent bien, connaissent et apprécient vos threads sur notamment l'état des forces armées, tant britanniques que françaises, ce que je peux préciser, que vous êtes passé à un moment par la Légion étrangère, donc pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est intéressant parce que vous avez pu comparer donc diverses forces armées. Je peux rappeler aussi que vous étiez déjà venu nous parler de Jarhead dans les formats dans le bunker, épisode qui avait été extrêmement apprécié d'ailleurs, mais on avait dû le faire à l'époque à distance, puisque bon, ça devait être une des vagues de Covid, c'est un peu loin, je sais plus laquelle c'est, mais dans tous les cas, par ailleurs, étant sergent dans l'armée britannique, vous êtes le plus souvent en Grande-Bretagne, et je profite donc avec grand plaisir de votre passage à Paris pour enregistrer cet épisode, mais il y en a un certain nombre d'autres épisodes qu'on enregistre ce matin aussi, et que les auditeurs pourront découvrir dans les semaines et les mois qui viennent. Donc bonjour, bienvenue à l'École Militaire, et merci beaucoup d'être là.
Bonjour Alexandre, et merci de m'accueillir ici à l'IRSEM pour cette émission.
Alors, c'est un article qui est publié sur le site Wavell Room, qui est, alors je vais peut-être vous laisser le définir, mais j'ai l'impression, l'intuition pour en avoir lu un certain nombre d'articles, c'est une sorte de War on the Rocks, ou maintenant le Rubicon qui vient d'être créé en français, c'est-à-dire un endroit où on est censé pouvoir réfléchir un peu librement, faire des articles un peu approfondis sur ce qu'on pourrait appeler la culture militaire.
Alors c'est tout à fait ça, ça va au-delà de la culture puisqu'on discute également de doctrine et même de problèmes tactiques et stratégiques, mais il s'agit effectivement tout simplement d'un forum. Et
Alors c'est pas un forum comme on le connaissait dans les années 90, voilà. C'est-à-dire c'est pas un message board, c'est des articles longs, approfondis, avec des notes de bas de page, etc., mais c'est quand même un endroit où tout le monde peut discuter, c'est ça ?
Voilà, il s'agit de promouvoir une pensée qui est qualifiée de disruptive, en tout cas par les fondateurs de cette plateforme, en tout cas, et de produire tout simplement des contenus qui vont remettre en question les idées reçues, et pour faire évoluer tout simplement les mentalités, mais aussi éventuellement les doctrines à proprement parler.
Alors, c'est un article qui est parfaitement fascinant, que j'avais lu à l'époque, donc qui date d'avril 2020, qui est intitulé donc « On the Toxicity of the Warrior Ethos », donc sur la toxicité, sur la nature toxique de l'éthique du guerrier. C'est vraiment, alors j'ai dit, c'est pas un article à proprement parler universitaire, puisque vous n'êtes pas universitaire, c'est ça, donc pas la mise en forme, et ça n'a aussi pas l'aridité d'ailleurs d'un article académique, mais ça va paradoxalement beaucoup plus en profondeur, et aussi parce qu'il y a quelque chose de vécu personnel évident, et alors je vais le résumer à grands traits, mais c'est sur l'idée, voilà, et sur le problème qu'il y a à voir se multiplier dans les armées contemporaines, disons, une image de soi de la part d'un certain nombre de militaires qui se voient comme des guerriers, alors sous l'influence d'un certain nombre de films, enfin de produits culturels qui touchent à la guerre, des films comme 300, etc. Mais c'est sur ces espèces de fantasmes de soi par un certain nombre de militaires comme des guerriers, alors pas forcément assoiffés de sang, mais se penser comme des, disons, comme des guerriers plutôt que comme des soldats. Donc on va revenir évidemment sur la démonstration qui est très approfondie et très brillante, j'ai trouvé. Mais peut-être partons du point de départ, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti peut-être dans votre pratique en tant que militaire vous-même, qui vous a amené à vous pencher sur cette question et par écrit.
Le problème pour moi, c'était l'habillage au départ. Et il y a un autre article qui a fait suite à celui-là par Shana Karp, qui est une communicante états-unienne, qui elle s'est beaucoup plus penchée sur l'aspect marketing. Mais toute cette histoire, toute la pop culture, etc., ça reste de l'habillage. Le problème, c'est que cet habillage est...
Donc l'habillage, c'est quoi ? C'est le vêtement, le look des militaires ?
Non. Quand je parle d'habillage, je parle d'habillage en termes de communication. C'est-à-dire, l'image guerrière, ce sont par exemple des patchs avec des casques corinthiens, etc. Toutes sortes de choses qui vont reprendre une imagerie qui est empruntée à la pop culture, etc. Mais... je me suis rendu compte que derrière...
Simplement, c'est des patchs qu'on trouve où ? Enfin, c'est-à-dire...
On en trouve partout. Hein. Quelquefois, ils sont faits même en opération parce que vous avez une compagnie ou un bataillon qui sont en opération ou en régiment, d'ailleurs, ou en groupement tactique, et ils décident, par exemple, sur place, de se faire, par exemple, un petit patch pour commémorer leur mission, leur mission de courte durée ou de longue durée.
Et donc ça, les casques corinthiens, on va dire, c'est juste ces espèces de homes grecs qui rappellent 300, enfin qui ont été tout à fait popularisés autour du film de Zack Snyder, de 300.
Voilà, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles je vais revenir de toute façon. J'avais pris l'exemple, par exemple, des SEALs, les équipes de Navy SEALs américains. Chacune, en fait, avait une identité visuel. Les uns, c'était des guerriers natifs américains. L'un, c'était des soldats médiévaux ou des templiers. D'autres encore, des pirates, etc., etc. Donc ça, c'est un emballage. C'est ce qui est à l'extérieur. Mais je me suis rendu compte que derrière, il y avait des choses qui étaient plus sombres et plus dangereuses à l'œuvre et qui, et je n'ai pas d'autre mot, qui infectait en quelque sorte l'éthique de ces soldats. Et ce ne sont pas ces patchs qui causent cette espèce de déliquescence ou en tout cas de délitement, en tout cas de l'éthique militaire, mais ce sont des révélateurs. Et c'est là-dessus que je me suis penché.
Alors, révélateur de quoi ? C'est forcément d'une certaine relation des militaires à leur rôle, à leur pratique au quotidien. Et on peut peut-être dire, enfin, une des postulats de base, une des remarques de base de l'article, c'est quelque chose qu'on dit souvent par ailleurs, c'est que les militaires passent globalement leur temps à s'ennuyer, à s'entraîner et à s'ennuyer, et que c'est le quotidien d'un militaire que de faire tout le temps la même chose, s'entraîner pour souvent ne rien faire, etc. Et que du coup, il y a forcément une tentation d'essayer de combler ce vide, cette inactivité, d'essayer d'y trouver du sens, d'essayer de l'habiller avec des références. Et c'est en quelque sorte de là que vous partez pour voir que ces références qui sont là pour combler un vide au quotidien, en fait, ont une vraie aussi performativité, enfin, traduisent quelque chose de la manière dont les soldats se pensent eux-mêmes.
Oui, c'est une donnée avec laquelle il faut compter. Pour beaucoup, lorsque l'on s'engage dans le métier des armes, c'est aussi parce qu'on cherche une vie d'aventure, une vie d'action. On aime le métier pour lui-même et on se retrouve dans le... Je ne veux pas diminuer ces spécialités, mais on se retrouve dans le matériel, maintenant le service des essences a changé, je crois. C'est maintenant le service des énergies ou quelque chose comme ça. On se retrouve finalement à faire des choses...
Globalement, tout le monde n'est pas commando, quoi.
Voilà, exactement. Tout le monde n'est pas commando, tout le monde ne sera pas forcément un égorgeur de la nuit. Or, beaucoup s'engagent pour devenir des égorgeurs de la nuit. Mais... Bon, il y a quelque chose à faire de cela. Hein. C'est-à-dire que le soldat ordinaire qui est dont 8 sur 10 n'appartient pas aux troupes de combattantes, il a quand même cette envie. Et puis, et c'est ce que j'évoque vers la fin de mon article en parlant de Cameron pour la Légion. Les gens qui ont fait Cameron, c'était des types qui étaient restés à la base. À qui l'on demande une mission, c'est qui ? C'est le trésorier payeur, c'est le secrétaire, ce sont ces gens-là qui ont fait ce.
Donc Cameron, rappelons simplement, c'est cette grande bataille au Mexique très légendaire et très fondatrice pour la Légion étrangère, où je ne sais pas combien, mais quelques dizaines de soldats de la Légion étrangère tiennent tête à des milliers de Mexicains.
60 contre 2000.
Ouais. Voilà. Mais donc oui, c'est ce que vous voulez dire aussi, c'est qu'il y a. Enfin, il y a une vertu à ce que même tout le monde se pense comme militaire et c'est au moins cette aspiration, c'est le fait que bah, quand on est militaire, on peut quand même même si c'est pas la fonction première, il peut arriver de se retrouver dans une situation de danger et du coup, il y a une certaine utilité à avoir quand même cet état d'esprit général.
Absolument, absolument. Donc il y a de ça. Et puis surtout, il y aura chez ces gens-là une motivation personnelle à exceller dans le métier de base du soldat qui est le combat. Et c'est toujours une bonne chose. Ce sont des gens qui prendront soin de leurs compétences, de leur entraînement, d'eux-mêmes. Donc il faut cela. Il faut que le militaire rêve d'être meilleur. Il faut qu'il y ait quelque part une aspiration peut-être à être un égorgeur de la nuit. Je crois que c'était Jean Michelin qui avait écrit un thread magnifique, je crois, sur un de ses sous-officiers qui avait tenté la sélection des forces spéciales. Bon, c'était assez drôle aussi, mais ce n'était pas sans tendresse envers cet individu. Et bon, que l'on réussisse ou que l'on échoue, voilà, on en est que meilleur à avoir cette aspiration, en fait.
Mais alors, ça c'est le côté positif, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une sorte d'objectif. Alors, si tant est d'ailleurs qu'il y ait une supériorité des uns par rapport aux autres, enfin de certaines fonctions. En tout cas, il y a certaines fonctions qui sont plus proches de l'idéal type du militaire qu'on a probablement quand on s'engage. Mais alors, à partir de là, où est le problème ?
Alors, le problème, c'est que il y a également en fait tout un côté obscur de l'éthique guerrière qui consiste à se voir en caste coupé de la société civile et quand on est coupé de la société civile on n'a plus à rendre de compte non plus et on se voit apparaître des mentalités tribales où on s'affranchit des lois, des us de la guerre pour tout simplement se constituer ses propres lois, ses propres règles. Et les conséquences sont tragiques tant en face que pour les unités elles-mêmes. Et là, nous avons des exemples qui sont anciens, qui sont récents. Alors notamment, le dernier en date, c'était les SAS australiens. Alors je crois que c'est toujours en cours, mais qui risque la dissolution suite au rapport Bretherton, je crois que c'est, qui est du parlementaire australien qui s'est penché sur la question. Donc il y a un sérieux risque de dissolution des SAS australiens suite à des comportements répréhensibles en Afghanistan, mais qui étaient devenus systématiques. Donc c'est le problème. Et c'est la même chose chez les SEALs aussi. Et là, l'enquête n'est pas encore plus ancienne puisqu'elle date du milieu des années 2000. Ces choses ont déjà été identifiées et elles n'ont pas été arrangées avec le fait que Trump ait gracié certains des responsables.
Mais donc le danger, c'est une espèce donc d'apparition de mentalité aristocratique, de se penser comme exceptionnel au-dessus des autres et donc par conséquent potentiellement au-dessus des lois et donc, disons, de perdre la mentalité du service au profit d'une mentalité tout entière orientée vers le combat et ce que est, disons, la légitimité ou la supériorité que le combat, que l'expérience du combat donnerait à ceux qui y seront particulièrement performants, c'est ça ?
Ce serait, je le tournais dans l'autre sens. C'est-à-dire que le premier danger, c'est effectivement, la première chose, c'est de s'affranchir, en fait, de tout ce qui est Reddition de compte, alors déjà dans la chaîne de commandement elle-même, puisque alors ce sont des problèmes qui ont surtout concerné des forces spéciales. Alors je ne veux pas absolument pas coller ça sur les forces spéciales en général, mais en tout cas les cas identifiés récemment durant la Grande Guerre contre la Terreur, c'était les SAS australiens. Il y a actuellement des rapports inquiétants qui font surface à propos des SAS britanniques aussi. J'ai parlé des Navy Seals américains. Donc, d'une part, ils s'affranchissent déjà de rendre de compte, parce que ce sont des forces spéciales. Ils opèrent en dehors d'une chaîne de commandement classique. Vous avez les troupes ordinaires qui sont sur le théâtre d'opération et qui participent à leurs opérations. Eux, déjà, ont par habitude l'habitude de rendre compte directement à des autorités qui sont bien au-dessus. Donc déjà, on a ce problème-là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ils refusent également de rendre de compte, en fait, plus tard aux autorités civiles. Donc ils s'affranchissent en quelque sorte et ils vont finir par mener leur propre petite guerre. Et là, on entre dans autre chose et qui va avoir des répercussions après sur la société civile elle-même, puisqu'en fait, les procès des Navy Seals américains ont polarisé la société avec les pro-Trump qui étaient là en train de justifier ce qui se passait. Et au Royaume-Uni, on a eu un petit peu le même problème, en fait, avec un cas de crime de guerre, avec un Royal Marines qui a abattu un Afghan blessé en disant « l'achever ». Et il y a eu un procès, pareil, polarisation de l'opinion publique, selon des lignes de fracture qui sont bien délimitées aussi politiquement parlant, avec toute une portion de la population qui effectivement le soutenait, et toute une portion qui disait « non mais ce n'est pas possible ». Là, ça c'est l'étape intermédiaire pour passer ensuite à ce que vous avez décrit en premier, c'est-à-dire se voir comme une caste. Et là, ça devient dangereux pour la société civile dans son ensemble.
Mais alors, là où c'est aussi très intéressant, c'est que vous vous appuyez sur un exemple historique qui est d'ailleurs plus ou moins familier en France, mais qui est l'exemple, j'allais dire, de la guerre d'Algérie, mais ça commence bien avant la guerre d'Algérie, mais c'est cette idée que au moment de la guerre d'Algérie et au moment de l'OAS, ce qu'on verrait se cristalliser en quelque sorte, c'est les résultats d'une éthique du guerrier chez un certain nombre de soldats qui viendrait de bien plus loin, qui viendrait d'abord de la résistance, puis ensuite de la guerre d'Indochine. Enfin, c'est disons la galaxie Bijar, les gens qui faisaient de la contre-insurrection, d'abord qui étaient dans la résistance et puis ensuite qui ont fait de la contre-insurrection coloniale. Et votre idée, c'est que, en quelque sorte, ces gens-là avaient acquis cette espèce de mentalité de guerrier au point de s'affranchir progressivement, disons, de la légitimité de la chaîne de commandement militaire, et que au bout du processus, qu'on verrait le résultat qu'on verrait, en l'occurrence, disons dans les années 60, c'était l'OAS.
Alors je dirais, toute proportion gardée. Et là, pour le coup, je vais mettre un bémol à mon propre argument, ou plutôt mieux le circonscrire. Ça, c'est le volet de culture militaire. Il y a effectivement également un volet politique à ce qui va déboucher ensuite sur le putsch des généraux. Mais au départ, il y a surtout une fusion, en fait, de deux mentalités, et en quelque sorte qui vont produire ce que nous, les anglo-saxons, appelons une perfect storm, un alignement des planètes en quelque sorte. C'est vraiment l'armée de libération. L'armée de libération, c'est la fusion entre des éléments qui sont des éléments des forces françaises libres et des éléments de l'armée d'Afrique. Et c'est cette fusion, en fait, qui va produire un type de soldats des guerres coloniales, d'abord de l'Indochine, puis de l'Algérie, très particulier, vraiment propre à l'armée française. C'est d'une part, on a des gens qui, soit effectivement ont été résistants, soit ont été formés par les Britanniques en tant que commandos, des anciens SAS, en tout cas parachutistes, donc ils ont ce sens de l'autonomie, une certaine forme d'agressivité, et toutes ces choses-là sont finalement très utiles. D'autre part, il y a le côté tribal aussi de l'armée d'Afrique, où le chef se voit comme un chef de tribu, et l'une de mes références, je disais, par exemple, la sonnerie des chefs de corps dans la Légion, ça s'appelle Okaïd. ça veut tout dire. C'est que le colonel, le chef du régiment, le chef de corps, se substitue au chef tribal. Et lorsque ces deux armées, en quelque sorte, fusionnent, ces mentalités fusionnent aussi. Et elles fusionnent en particulier au sein d'une unité qui, pour le coup, sur le terrain, tactiquement parlant, fusionne également ces deux éléments. Ce sont les parachutistes coloniaux. Et ça commence effectivement en Indochine, où typiquement Bija, par exemple, se taille quasiment un royaume dans son, dans sa zone d'opération. Il est autonome. Donc, et cette autonomie, elle n'est pas mauvaise en soi, tactiquement parlant. Mais elle porte en elle les germes de ce qui va arriver plus tard en Algérie. Et tout le problème aussi du guerrier, c'est qu'il a un intérêt en quelque sorte personnel dans le combat. En quelque sorte, c'est, ça devient personnel. Et ça devient tellement personnel qu'il estime que déjà les civils ne peuvent pas le comprendre, et surtout ce qu'il paye sur le terrain, c'est-à-dire le sang répandu de sa troupe, l'affecte. Et l'affecte à tel point que, effectivement, il, comme j'ai dit, à un moment, il va se retourner et dire « Il est hors de question que le sacrifice de mes hommes n'ait servi à rien. »
Mais alors, l'étape suivante, c'est, on voit donc cette espèce de problème, cette espèce de cul-de-sac qui est que on cherche à développer ça pour un certain nombre d'unités. Et en fait, il faudrait presque, au contraire, une contre-mentalité qui, justement, permettrait de tempérer ce rôle, cette autonomie que certaines unités ont. Or, ce que vous décrivez, ce qu'on voit, c'est au contraire cette mentalité qui se déploie aux armées au sens large, même à ceux dont ça n'est pas le rôle. Et alors, ce que vous dites aussi, ce à quoi vous appelez dans une certaine mesure dans cet article, c'est justement à développer, à répandre ces contre-modèles, et notamment vous indiquez que on pourrait aussi, enfin c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que quand c'est culturel, c'est aussi c'est pas comme si on n'avait pas de prise dessus, on peut aussi essayer de pousser certains narratifs, certaines figures, certains mythes plutôt que d'autres, et vous vous dites il y a certaines choses dont on pourrait aussi s'inspirer, qu'on pourrait peut-être pousser, mettre un peu plus en avant, par exemple la référence au centurion de l'armée romaine, c'est-à-dire globalement pousser vers des références qui sont plus vers d'autres types d'armées, des armées qui sont bien disciplinées, qui sont très clairement soumises au pouvoir civil, même si à Rome ça évolue à un moment, mais bon, qui ont un rôle très clairement défini pour servir et pas pour se servir. Donc voilà, comment est-ce que vous envisagez, la mise en avant de contre-récits qui pourraient être faites?
Pour en revenir au début, j'avais parlé du packaging, effectivement, d'un packaging qui était attractif pour les militaires. C'était des films comme 300, ce sont des modèles, comme j'ai dit, qui sont un peu des sujets de contention. Je veux dire, quand vous avez une unité américaine qui se présente à Bagdad et qui peint tout simplement des chevaliers avec des grosses croix blanches, des grosses croix rouges sur fond blanc sur leur bouclier, c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Donc pour moi, il s'agissait de présenter un modèle alternatif. Et là, pour le coup, on tombe un peu sur une différence, en tout cas de traduction, quelque chose qui est intraduisible. Guerrier, en français, c'est aussi un adjectif. Et donc moi, je parlais de la figure du guerrier. Et pour le coup, par contre, en français, quand on dit avoir une mentalité guerrière, etc., c'est autre chose. Et c'est pour ça que ce que je proposais comme modèle alternatif, c'était une éthique martiale. Ce qui peut correspondre simplement à une éthique guerrière, si l'on veut. Moi, ce dont je pense qu'il faut se détacher, c'est de prendre le guerrier autonome qui fait sa propre loi et qui finit à un moment ou un autre par prendre le pouvoir parce qu'il est le seul dépositaire de la violence légitime ou illégitime, à un moment il s'en moquera puisque c'est lui qui fait la loi. Je disais qu'il fallait se détacher de cela parce que effectivement le guerrier actuel, c'est qui? C'est le Taliban, c'est Boko Haram, c'est le C'est le type qui est dans le massif des Ifoghas en ce moment. Et ce que je proposais, effectivement, c'était le légionnaire romain. Donc, il y a eu des articles qui ont répondu à mon article et qui avaient des arguments intéressants, qui disaient « Non, mais il ne faut pas réduire le guerrier à ce que la pop culture en fait. Il y a des guerriers qui ont une éthique, etc. » Et ils avaient cité les travaux de Shannon French, qui est philosophe américaine et qui s'occupe d'éthique militaire. Bon, je suis pas tout à fait... J'aime beaucoup, en fait, Shannon French, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, en fait, avec ces distinctions. Lorsqu'elle dit, par exemple, que les samouraïs avaient une éthique guerrière sous la forme de Bushido, bon, on sait depuis... peu que ce n'est pas le cas, le Bushido est une invention de l'ère Edo et c'est une construction post-guerre civile. De même, à un moment, elle parle des guerriers Zoulous. Je ne suis pas du tout d'accord. Les Zoulous ne sont pas des guerriers, ce sont des soldats. Ils appartiennent à une armée disciplinée, recrutée, nourrie par un État centralisé. Donc, pour moi, ce ne sont pas des guerriers. Et je proposais donc le centurion romain de la République. Et pourquoi le centurion romain de la République ? Pour deux raisons. Le guerrier n'a pas l'apanage du crime de guerre. On remonte à on voit l'armée soviétique à Berlin ou l'armée de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des armées qui commettent des atrocités énormes. Jamais vues d'ailleurs. Donc le guerrier n'a pas l'apanage.
Et qui pourtant ne sont pas des armées guerrières, ce sont des armées extrêmement cadrées, extrêmement régimentées.
Absolument. Mais et c'est ça qui est important pour moi, c'est que il faut faire correspondre le modèle militaire à notre modèle politique. En démocratie, on ne peut pas se permettre d'avoir des guerriers. Et c'est toute la question. C'est un soldat, puisque je préfère le soldat au guerrier, un soldat, effectivement, sous une dictature... Eh ben, il commettra des choses atroces parce que le régime auquel il appartient est tout simplement mauvais. Mais un soldat qui appartient à une démocratie obéira à la loi. Le problème, c'est qu'un guerrier en démocratie, lui, ne fera pas ce que son régime, qui est juste, qui obéit en fait aux conventions internationales, il ne fera pas ce que son régime exige de lui. Et c'est tout le problème, c'est pour moi de dire qu'en fait, le guerrier n'est pas un modèle viable quand on vit dans un état de droit, dans une démocratie. Et le soldat romain de la République, alors, il faisait des choses effectivement atroces parce que, bon, c'était dans l'air du temps, donc avec le recul, on peut le dire. Ceci dit, ce qu'il faisait devait correspondre à la loi romaine. Et lorsque ce n'était pas le cas... Eh bien, le consul ou le général était rappelé à Rome pour subir un procès, etc. Et d'ailleurs, le type qui met fin à la République romaine, eh ben, on l'avait rappelé à Rome pour lui sonner les cloches, et il franchit effectivement le Rubicon en disant « Ben non, ça y est, maintenant c'est fini, je prends le pouvoir. »
Oui, dans une certaine mesure, c'est de la... C'est de la fin de cette suggestion du militaire au politique via la fin de la République romaine dans une certaine mesure. Ouais. Et enfin, on peut peut-être dire qu'il y a un autre problème corollaire, c'est que ces figures du guerrier, bon, elles sont relativement situées en général. Enfin, bon, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est les chevaliers médiévaux, c'est... Enfin bon, il y a une... Disons, ces références du passé, en général, ont un truc assez fort qui peut, dans les armées d'aujourd'hui, où il y a des gens qui viennent de tous horizons, et ça, disons, ça peut être des références qui peuvent être un peu clivantes, et en tout cas pas forcément favoriser l'inclusion franche et totale de recrues d'horizons tout à fait différents, quoi.
Absolument. Alors... Clivante, pas forcément. C'est-à-dire que, bon, les armées ont une histoire, elles sont rattachées effectivement à une histoire nationale, puisque les armées, par définition, sont nationales, et à toute une tradition qui est parfaitement compréhensible. Alors, ce qu'il faudrait noter, c'est que si on parle effectivement de soldats plutôt que de guerriers, cette tradition, elle remonte à la création des armées nationales. Donc déjà, on est on a des références qui ne se rentrent pas dans le cadre en fait des guerriers. On est vraiment dans déjà des armées qui sont des armées de métier ou des armées établies. Mais le problème, c'est que typiquement, effectivement, il y a un sous-texte dans le choix effectivement des références guerrières. Lorsque l'on prend par exemple, à moins d'être une armée scandinave, mais lorsqu'on fait le choix de s'identifier par exemple à des Vikings, il y a quelque part, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, le problème c'est que ça génère en tout cas le soupçon d'exclure en tout cas des gens qui ne sont pas d'Europe du Nord. Lorsque l'on prend des croisés, et là par contre c'est effectivement assez fort, on exclut, non seulement on exclut, mais on fait comprendre carrément en fait typiquement par exemple aux musulmans, et il y en a maintenant de plus en plus dans les armées européennes qui sont des citoyens européens, on leur fait comprendre tout simplement qu'ils sont l'ennemi. Et ça pose problème. De toute façon, la plupart de ces références guerrières, pour le coup, peut-être sauf les Vikings justement, excluent aussi de facto les femmes. Maintenant, on a des femmes dans les armées. On doit peut-être penser à mettre en avant des modèles qui les incluent.
Très bien. Je renvoie donc vers cet article, donc The Toxicity of the Warrior Ethos, qui est librement consultable sur le site Wavel Room, qui date d'avril 2020, qui est encore parfaitement actuel un an et demi plus tard, puis qui ouvre aussi vers d'autres problèmes tout aussi contemporains sur, par exemple, les problèmes politiques au sein des armées, et disons la manière dont une chose peut se communiquer à l'autre, notamment quand on voit disons certaines dérives au sein de certaines unités. Merci beaucoup Ryan Nourali.
De rien, Alexandre.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.